Yaroslav Hašek, le brave soldat Švejk, 1921-1923. Chapitre 1er. Comment le brave soldat Švejk intervint dans la Grande Guerre.
C'est du propre, monsieur le patron, prononça la logeuse de monsieur Švejk, qui, après avoir été déclaré complètement idiot par la commission médicale, avait renoncé au service militaire et vivait maintenant en vendant des chiens bâtards, monstres immondes, pour lesquels il fabriquait des pédigrés de circonstance. Dans ses loisirs, il soignait aussi ses rhumatismes, et au moment où la logeuse interpella, il était justement en train de se frictionner les genoux au baume d'un podel d'or.
« Quoi donc ? » fit-il.
« Eh bien, monsieur, notre Ferdinand, il n'y en a plus. »
« Mais de quel Ferdinand parlez-vous, madame Müller ?» questionna Švejk tout en continuant sa friction.
« J'en connais deux, moi. Il y a d'abord Ferdinand, qui est garçon chez le droguiste Prouchat, et qui lui a bu une fois par erreur une bouteille de lotion pour les cheveux. Après, il y a Ferdinand Kokoschka, oui, celui qui ramasse les crottes de chien. « Ah, si c'est l'un de ces deux-là, bon, c'est pas grand dommage, ni pour l'un, ni pour l'autre. »«
Mais, monsieur le patron, c'est l'archiduc Ferdinand, celui de Konopiste et le gros calotin, vous savez bien. »«
Jésus-Marie, n'en v'là d'une nouvelle !» s'écria Švejk. « Et où est-ce que ça lui est arrivé, à l'archiduc, voyons ?»«
À Sarajevo. » Des coups de revolver, et y était allé avec son archiduchesse en auto.
Ça, par exemple, ben oui, en auto. Vous voyez ce que c'est, Mme Müller, on s'achète une auto et on pense pas à la fin. Un déplacement, ça peut toujours mal finir, même pour un seigneur comme l'archiduc, et surtout à Sarajevo. C'est en Bosnie, vous savez, Mme Müller, et il n'y a que les Turcs qui sont capables de faire un sale coup pareil. On n'aurait pas dû leur prendre la Bosnie et l'Herzégovine, voilà tout. Ils se vengent à présent.
Alors notre bon archiduc est monté au ciel, Mme Müller.
Sans pas traîner, vrai. Et a-t-il rendu son âme en tourpeau ou bien a-t-il beaucoup souffert à sa dernière heure?
Et il a été fait en 5 secs, monsieur le patron. Pensez donc, un revolver, c'est pas un jouet d'enfant. Il n'y a pas longtemps chez nous, à Nusl, un monsieur a joué avec un revolver et il a tué toute sa famille, y compris le concierge, qui est monté au 3e pour voir ce qui se passait.
Il y a des revolvers, Mme Müller, qui ne partent pas, même si vous poussez dessus à devenir fou. Et puis il y en a beaucoup de ces systèmes-là. C'est bon, vous comprenez, pour servir un archiduc, on ne choisit pas de la camelote. Et je parie aussi bien que l'homme qui a fait le coup s'est habillé plutôt chiquement. Un attentat comme ça, c'est pas un boulot ordinaire. C'est pas comme quand un braco tire sur un garde. Et puis des archiducs, c'est des types difficiles. N'entrent pas chez eux qui veut, n'est-ce pas? On peut pas se présenter mal ficelé devant un grand seigneur comme ça, il n'y a pas à tortiller. Il faut mettre un tuyau de poêle, sans ça vous êtes coffré. Ma foi, allez donc apprendre les belles manières au poste.
Il paraît qu'ils étaient plusieurs.
Bien sûr, Mme Müller, répondit Švejk en terminant le massage de ses genoux. Une supposition, vous voulez tuer l'archiduc ou l'empereur? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'aller demander conseil à quelqu'un. Autant de têtes, autant d'avis. Celui-ci conseille si, l'autre ça, et alors l'œuvre réussit, comme on chante dans notre hymne national. L'essentiel, c'est de choisir le bon moment lorsqu'un tel personnage passe devant vous. Tenez, vous devez vous rappeler encore ce monsieur Luceni qui a percé à coups de tiers-poids feu notre fin impératrice Elisabeth. Celui-là a fait encore mieux. Il se promenait tranquillement à côté d'elle et tout d'un coup, ça y était. Oh, c'est qu'il ne faut pas trop se fier aux gens, Mme Müller. Depuis ce temps-là, les impératrices ne peuvent plus se promener. Et c'est pas fini, il y a encore bien d'autres personnages qui attendent leur tour. Vous verrez, Mme Müller, qu'on aura même le tsar et la tsarine. Et il se peut aussi, puisque la série est commencée par son oncle, que notre empereur y passe bientôt.
Il a beaucoup d'ennemis, vous savez, notre vieux père, beaucoup plus encore que ce Ferdinand. C'est comme disait l'autre jour un monsieur au restaurant, le temps viendra où tous ces monarques claqueront l'un après l'autre, et même le procureur général n'y pourra rien. La douloureuse venue, ce monsieur dont je vous parle n'avait pas de quoi régler, et le propriétaire a dû appeler un agent. Le monsieur a accueilli ses décisions en allongeant une gifle au patron et deux à l'agent, et on l'a emmené en panier à salade, vous savez. Vraiment, Müller, il s'en passe des choses à cette heure. Et l'Autriche ne fait qu'y perdre. Quand je faisais mon temps, un fantassin a tué un capitaine. N'est-ce pas, le pauvre bourg charge son fusil et s'en va au bureau. Là, on l'envoie promener, mais il insiste qu'il veut parler au capitaine. Finalement, le capitaine sort du bureau et colle au copain 4 jours de consigne. À partir de ce moment, ça allait tout seul. Le copain va chercher son fusil et envoie une balle directement dans le cœur du capitaine. Elle lui sort par le dos et fait encore des dégâts au bureau. Elle casse une bouteille d'encre et tache les paperasses. « Et ce soldat, qu'est-ce qu'il est devenu ?» questionna Madame Müller pendant que Schweik s'habillait. « Il s'est pendu avec une paire de bretelles, » répondit Schweik en époussetant son chapeau melon. « Avec des bretelles qui n'étaient pas à lui, s'il vous plaît. » Il avait dû les emprunter au gardien-chef, sous prétexte que ses pantalons tombaient. Et dame, pourquoi attendre que le conseil de guerre vous condamne à mort, n'est-ce pas? Vous comprenez, Mme Müller, que dans des circonstances pareilles, on perd la tête. Le gardien-chef a été dégradé, il a attrapé 6 mois de prison. Ben, il n'a pas pourri au violon. Il a foutu le camp en Suisse, où il a trouvé un poste de prédicant de je ne sais plus quelle église. Les gens honnêtes sont rares aujourd'hui, vous savez, Mme Müller. On se trompe facilement. C'était certainement le cas de l'archiduc Ferdinand. Il voit un monsieur qui lui crie gloire et il se dit que ça doit être un type comme il faut. Mais voilà, les apparences sont trompeuses. Est-ce qu'il a reçu un seul coup ou plusieurs? Ben, il est écrit sur les journaux, monsieur le patron, que l'archiduc a été criblé de balles comme une écumoire. L'assassin a tiré toutes ses balles. Oh, parbleu! Oh, bon, on va vite dans ces affaires-là, Mme Müller. La vitesse, c'est tout. Moi, en pareil cas, je m'achèterai un Browning. Ça n'a l'air de rien, c'est petit comme un bibelot, mais avec ça, vous pouvez tuer en 2 minutes une 20aine d'archiducs, qu'ils soient gros ou maigres. Entre nous, Mme Müller, vous avez toujours plus de chance à ne pas rater un archiduc gras que l'archiduc maigre. On l'a bien vu au Portugal. Vous vous rappelez cette histoire du roi troué de balles? Celui-là aussi était dans le genre de l'archiduc, gros comme tout. Bon, dites donc, Madame Müller, je m'en vais maintenant à mon restaurant au Calice. Si on vient pour le ratier, oh, j'ai déjà touché un petit acompte sur le prix. Vous direz, s'il vous plaît, qu'il se trouve dans mon chenil à la campagne, que je viens de lui couper les oreilles et qu'il n'est pas en état de voyager tant que ses oreilles ne sont pas cicatrisées. Il pourrait prendre froid. La clé, vous la remettrez à la concierge. Au Calice, il n'y avait qu'un seul client. C'était Breitschneider, un agent bourgeois. Le propriétaire, M. Palivec, rinçait les sous-coupes et Breitschneider essayait en vain d'entamer la conversation. Palivec était célèbre par la verdeur de son langage et ne se pouvait pas ouvrir la bouche sans dire « cul » ou « merde ». Mais il avait des lettres et conseillait à qui voulait l'entendre de relire ce qu'a écrit à ce sujet Victor Hugo dans le passage où il a cité la réponse de la vieille garde de Napoléon aux Anglais à la bataille de Waterloo. « Nous avons un été superbe », grommença Breitschneider, désireux de faire parler le patron. « Bon, autant vaut la merde !» répondit Palivec en rangeant les soucoupes sur le buffet. « Ben, ils en ont fait de belles, hein, dans ce sacré Sarajevo !» hasarda Breitschneider avec un air faible espoir. « Dans quel Sarajevo ?» questionna Palivec. « Le Bistonanus ? Oh, ça m'étonnerait pas du tout, là on se bat quotidiennement tous les jours. Tout le monde sait ce que c'est que Nusl. » Mais je vous parle de Sarajevo, en Bosnie, patron. On vient d'y assassiner l'archiduc Ferdinand. Ah, qu'est-ce que vous en dites ?
Bon, des choses comme ça, je ne m'en mêle pas. Celui qui vient m'emmerder avec des conneries pareilles, je l'envoie chier, répondit poliment Pavilek en allumant sa pipe. S'occuper des affaires de ce genre-là aujourd'hui, ça pourrait vous casser les reins. Je suis commerçant, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un vient pour me demander de la bière, je suis à son service. Mais n'importe quel Sarajevo, la politique ou feu notre archiduc, tout ça ne fait pas notre affaire. Ça ne peut rapporter qu'un séjour à Padirac. Déçu dans son attente, Braschneider se tut et regarda autour de la salle vide. Dans le temps, vous aviez ici un tableau représentant notre empereur, reprit-il après un moment de silence. Il était accroché juste là où il y a maintenant la glace. Ça, vous avez raison, riposta le patron. Mais comme les mouches chiaient dessus, je l'ai fait enlever et mettre au grenier. Vous comprenez, il vient du monde ici, et il pourrait arriver facilement qu'on fasse une réflexion désobligeante. Et ça me vaudrait des emmerdements. Ce que j'en ai besoin, moi. Il n'y a pas à dire, ça n'a pas dû être drôle, ce Sarajevo de malheur, patron. Il n'y a pas à dire, ça n'a pas dû être drôle, hein, ce Sarajevo de malheur, patron. À cette question qu'il sentit brûlante, Palivec répondit évasivement. Oh, cette époque-là, fit-il, il fait en Bosnie, en Herzégovine, des chaleurs formidables. Quand j'y faisais mon service militaire, on mettait tous les jours de la glace sur la tête de notre colonel. Mais dans quel régiment avez-vous servi, patron? Bon, je me charge pour la mémoire avec des bêtises pareilles. Je ne suis jamais occupé d'une telle foutaise, et du reste, je ne suis pas curieux à ce point-là, répondit Palivec. Trop cher chez lui. L'agent garda définitivement le silence. Son regard s'assombrit et ne s'illumina qu'à l'arrivée de M. Schweik, qui, en ouvrant la porte, commanda tout de suite une noire. À Vienne aussi, on est au noir aujourd'hui, ajouta-t-il. Les yeux de Breschneider s'allumèrent d'espoir. La canopiste, il y a une dizaine de drapeaux noirs, fit-il sèchement. Il doit y en avoir 12, dit Schweik après avoir bu de sa bière. Et pourquoi justement 12, interrompit Breschneider. Ben, pour que ça fasse un chiffre rond. Une douzaine, ça se compte mieux comme ça. Et puis c'est toujours un meilleur marché quand on l'achète par douzaine, répliqua Schweik. Il se vit un long silence que Schweik interrompit en soupirant. Ben voilà devant la justice de Dieu. Oh, que Dieu l'accueille dans sa gloire. Il n'aura pas vécu assez pour être empereur. Quand j'étais au régiment, un général aussi est tombé de son cheval et s'est tué tout doucement. On voulait le pousser pour l'aider à remonter à cheval et on a vu qu'il était déjà tout ce qu'il y a de plus mort. Lui aussi aurait été bientôt fait maréchal. Cela s'est passé à une revue. Ces revues militaires ne produisent jamais rien de bon. Oh, il n'y a pas d'erreur. Je vous le dis, moi, à Sarajevo, c'est encore une revue qui a été la cause de tout. Je me rappelle qu'à une revue comme ça, il manquait par hasard à peu près une vingtaine de sales boutons à mon uniforme. Eh bien, on m'a foutu pour 15 jours en cellule, hein, et pendant 2 jours, je me suis tortillé comme un lazare, ficelé comme un saucisson. Mais la discipline à la caserne, je connais que ça. Il en faut, voyez-vous. Notre colonel Marcavaz nous disait toujours « La discipline, tant d'abrutis, il la faut, parce que sans elle, vous grimperiez aux arbres comme des singes. Mais le service militaire fait de vous, espèce d'andouille, des membres de la société humaine. » Et c'est vrai. Imaginez-vous un parc, mettons celui de la place Charles, et sur chaque arbre un soldat sans discipline. C'est toujours ça qui m'a fait le plus peur. Bien, Sarajevo, insinua Breschneider, c'est les Serbes qui ont tout fait. Pas du tout, répondit Schweik. C'était les Turcs, en rapport à la Bosnie, à l'Herzégovine. Et Schweik exposa ses vues sur la politique extérieure de l'Autriche dans les Balkans. En 1912, les Turcs ont été battus par la Serbie, la Bulgarie et la Grèce.
Ils avaient demandé à l'Autriche de les aider, et comme l'Autriche ne marchait pas, mais ils viennent de tuer Ferdinand, voilà.
Est-ce que tu aimes les Turcs, toi? Ajouta Schweik en s'adressant au patron. Est-ce que tu les aimes, ces chiens de païens? N'est-ce pas que non?
Oh, client, vaut un autre, dit Palivez, même si c'est un Turc. Pour nous autres commerçants, il n'y a pas de politique. Tu paies ton lit, t'as ta place chez moi. T'as le droit de gueuler autant que tu veux, jusqu'à la Saint-Trou du cul. Voilà mon principe. Que le vrai type qui a fait le coup à Sarajevo soit un Serbe ou un Turc, un catholique ou un musulman, un anarchiste ou un jeune chèque, je m'en bats l'œil.
Oh, votre raisonnement est très juste, patron, dit Balschneider, sentant renaître son espoir de prendre en flagrant délit au moins un des deux hommes. Mais vous admettrez que c'est une grande perte pour la monarchie.
Schweig se chargea de répondre à la place du patron.
Tant oui, j'en ai une, personne ne le nie, même une perte énorme. C'est que Ferdinand ne peut pas se faire remplacer par le premier imbécile venu. Il ne lui manquait que d'être encore plus gros.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Demanda vivement Schneider.
Qu'est-ce que j'entends par là? Répéta Schweig d'un air content. Mais tout simplement ceci. S'il avait été plus gros, il aurait déjà depuis longtemps attrapé une attaque en courant après les vieilles femmes là-bas à Conopiste, quand elle ramassait les champignons et du bois mort dans sa chasse. Il n'aurait pas été forcé de mourir d'une mort si honteuse que ça. Quand j'y pense, un oncle de l'empereur et on le tue comme un lapin. Mais c'est un scandale, tous les journaux en sont pleins. Chez nous, à Budejovic, il y a quelques années, on a bousillé au marché, dans une petite dispute, un marchand de cochons, un certain Bratislav Ludovic. Il avait un fils qui s'appelait Geoffroy, et chaque fois qu'il s'amenait avec ses cochons à vendre, personne n'en voulait, tout le monde disait « C'est le fils du bousillé de Budejovic, ça doit être une fine canaille. » Ben, il a fini par se jeter dans la Voltava à Krumlov. On a été obligé de l'en tirer. Ils ont dû le faire revenir à lui, et il a fallu lui pomper de l'eau qu'il avait dans le corps, et cet animal-là a claqué dans les mains du médecin, pendant que celui-ci lui donnait une injection.
« Que vous en faites des comparaisons, » dit sentencieusement Schneider. « Vous parlez d'abord de l'archiduc, et ensuite d'un marchand de cochons. »
« Ben, je ne compare rien du tout, » dit Schweik pour se détendre. « Dieu m'en garde, le patron me connaît bien. »
Je n'ai jamais comparé personne à personne, il peut le dire. Seulement, je ne voudrais pas me retrouver dans la peau de la veuve de l'archiduc. Vous demandez un peu ce qu'elle va faire à présent. Les enfants sont orphelins et le domaine de Canopiste est sans maître. Et se remarier avec un nouvel archiduc, c'est à voir. Qu'est-ce qui lui garantit qu'elle ne retournera plus à Sarajevo et qu'elle ne deviendra pas veuve un second coup?
Il y a quelques années, vivait à Zioua, pas loin de Ljubolka, un garde qui avait un drôle de nom. Il s'appelait Petit Frère. Eh bien, les braconniers l'ont tué et sa veuve, un an après, s'est remariée encore avec un autre garde, avec Pepik Sievla de Vidonomari. Celui-là a été tué la même chose. Et en troisième noce, elle a voulu encore un garde en se disant « Toutes les bonnes choses sont au nombre de trois. Si à ce coup-là ça réussit pas, ben, je sais plus ce que je ferais. » Bien entendu, ils l'ont encore tuée, et elle avait déjà en tout 6 enfants avec ses 3 gardes. Elle était allée se présenter au bureau de Monseigneur le prince à Hlkova et avait raconté tous les malheurs qu'elle avait eus avec les gardes. On lui a conseillé, pour varier sur l'ordinaire, d'épouser Yaresh, un garde-pêche. Il a eu juste le temps de lui faire 2 gosses qu'il a péri en se noyant à la pêche annuelle d'un étang. Ah ben avec ses 8 gosses, elle a trouvé encore un chantreur de Voldanais avec lequel elle a convolé en juste noce. Une nuit, son 5e, lui a ouvert le crâne avec une hache et te laisse dénoncer tout seul aux autorités. Et le jour où on l'a pendu,
Il a arraché, en le mordant avec une force extraordinaire, le nez du prêtre qui l'accompagnait à l'échafaud, et il a déclaré qu'il ne regretterait rien de rien. Il a dit encore une chose bien vilaine sur le compte de notre empereur.
Et cette chose-là, vous ne savez pas ce que c'était ? Interrogea Breschneider d'une voix tremblante d'espoir.
Oh, ça, je peux pas vous le dire, parce que personne n'a jamais osé le répéter. Mais il faut croire que c'était quelque chose d'épouvantable et d'effroyable, parce que un conseiller de la cour, qui l'a entendu, est devenu fou, et on le tient encore aujourd'hui au secret, pour étouffer l'affaire. C'était pas seulement un outrage de lèse-majesté ordinaire, comme on en lâche quand on est sous.
Et quels sont les outrages de lèse-majesté qu'on fait quand on a bu ? Questionna Breschneider.
Ah, je vous en prie, messieurs, changeons de conversation, s'il vous plaît, intervint Balivec. Je n'aime pas ça, vous savez, les boniments, on les regrette quand il est trop tard.
Et quels sont les outrages de lèse-majesté qu'on lâche quand on est sous ? Répéta Schweik.
Ben, saoulez-vous, faites-vous jouer l'hymne autrichien et vous verrez comme vous y mettrez. Si dans tout ce qui vous passe alors par la tête, il n'y a que la moitié de vrai, il y en aura toujours assez pour qu'on vous traîne dans la boue pendant le reste de vos jours. Mais le vieux monsieur ne le mérite pas. Voyez, en pleine force, il a perdu son fils Rodolphe, un garçon qui promettait. Elisabeth, son épouse, on la lui perce avec un tiers point. Puis c'est le tour à Jean Horde de disparaître, on ne sait pas où. Et n'oubliez pas non plus Maximilien, le frère à l'empereur, qui a fini derrière un mur au Mexique. Et maintenant qu'il n'y en a plus pour longtemps, voilà encore son nom qu'on lui trouve de balle. Mais il faudrait qu'il ait des nerfs d'acier, le pauvre homme. Et il y a encore des gens qui n'ont pas honte de l'engueuler quand ils sont sous. Non, c'est moi qui vous le dis. Si jamais il y a quelque chose, je m'engage comme volontaire et je ferai mon devoir quand je devrais y laisser ma peau.
Schweig vida consciencieusement son verre et continua.
Vous imaginez que l'empereur se fiche de tout ça comme de sa première chemise. C'est que vous ne le connaissez pas. C'est moi qui vous le dis. Il y aura une guerre avec les Turcs. Vous avez assassiné mon oncle. Bien, je vais vous casser la gueule. La guerre est certaine. Et dans cette guerre, bon, la Serbie et la Russie vont nous aider. Ça va barder.
Au moment où il proférait ses prophéties, Schweik était réellement beau. Sa face naïve, souriante comme la lune en son plein, brillait d'enthousiasme. Tout lui paraissait lumineux.
« Il se peut, évidemment, dit-il en continuant à prévoir l'avenir de l'Autriche, qu'en cas de guerre avec la Turquie, les Allemands nous attaquent parce que les Allemands et les Turcs, c'est des alliés. » Des salauds comme ça, on en trouverait peut-être dans le monde entier, on en trouverait très peu. Mais alors, nous prenons une idée à la France, qui depuis 1870 en a soupé des Allemands. Dans tous les cas, la guerre est sûre et certaine, je vous dis que ça.
Breschneider se leva et dit d'un ton solennel, « Vous avez assez parlé, venez un peu avec moi dans le corridor, j'ai quelque chose à vous dire. »
Schweig suivit docilement le détective dans le couloir où l'attendait une petite surprise.
Son compagnon de chope lui montra un aiglon au revers de sa veste en lui annonçant qu'il l'arrêtait et qu'il allait l'emmener à la direction de la police.
Schweig tenta d'expliquer qu'il y avait certainement erreur de la part de monsieur, qu'il était innocent, qu'il n'avait pas articulé une seule injure envers qui que ce soit.
Mais Breschneider lui expliqua que son affaire était claire, qu'il avait commis plusieurs délits qualifiés, dont celui de haute trahison. Ils rentrèrent dans la salle et Schweik déclara à M. Pavilek
« J'ai 5 demi et une saucisse avec du pain. Donne-moi encore un schnapps, que je te foute le corps. Bah, je suis arrêté. »
Breschneider montra de nouveau son aiglon à M. Pavilek et l'interrogea à son tour.
« Vous êtes marié ?»«
Oui. »«
Et votre épouse, serait-elle en état de diriger votre commerce pendant votre absence?
Oui.
Alors, tout va bien, patron, fit joyeusement le Schneider. Appelez-la et prenez vos mesures. On viendra vous chercher dans la soirée.
N'en fais pas, dit Schweik à Palissec pour le consoler. Moi, j'y vais rien que pour haute trahison.
Mais moi, bon Dieu, ce lamentable Alivet, j'ai toujours été si prudent.
Bachneiser sourit et dit triomphalement.
Ben oui, vous avez dit que les mouches chiaient sur l'empereur. On vous apprendra à laisser l'empereur en paix.
En sortant de la brasserie au calice, en compagnie du détective, Schweik, dont le visage ne cessait de rayonner de bonté souriante, questionna.
« Est-ce que je dois descendre du trottoir ?»«
Pourquoi faire ?»«
Je me demande, comme je suis arrêté, si j'ai encore le droit de marcher sur le trottoir. »
En passant ensemble le seuil du commissariat central, Schweik ne put s'empêcher de dire
« Gentille petite promenade, hein ? Est-ce que vous venez souvent au calice ?»
Et tandis qu'on introduisait Schweik dans le bureau, M. Palivec transmettait à sa femme le gouvernement du calice et la consolait à sa façon.
« Crie pas, pleure pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien me faire pour un merdeux portrait de l'empereur ?»
Et c'est ainsi que le brave soldat Schweik entra dans la Grande Guerre, selon ses habitudes douces et traitables. Les historiens s'émerveilleront de sa clairvoyance. Sans doute, si la situation évoluait un peu autrement qu'il ne l'avait annoncé devant le comptoir du calice, souvenons-nous que notre ami Schweik n'avait pas de formation diplomatique.
Chapitre 2. À la direction de la police. Après l'attentat de Sarajevo, de nombreuses victimes du régime policier autrichien remplissaient le commissariat central. C'était un va-et-vient d'individus arrêtés, et le vieil inspecteur qui recueillait leurs noms disait de sa voix aimable
« Oh, il vous coûtera cher, votre Ferdinand, allez !»
Lorsqu'on eut enfermé Schweik dans une des nombreuses pièces du premier étage du bâtiment, il s'y trouva en société de 6 hommes. 5 étaient assis à la table et dans un coin, sur un lit, comme s'ils voulaient rester à l'écart, se tenait le 6e, un homme d'entre 2 âges. Schweik se mit immédiatement à les questionner, l'un après l'autre, sur le motif de leur arrestation. Les 5 premières réponses furent presque identiques.
« À cause de Sarajevo !»«
Oui, à cause de Ferdinand !»«
À cause de l'assassinat de Monseigneur l'archiduc !»
Pour Ferdinand, parce qu'on a dégringolé l'archiduc à Sarajevo.
L'homme qui se tenait à l'écart répondit qu'il n'avait rien de commun avec les autres inculpés, qu'il était au-dessus de tout soupçon, parce que lui ne se trouvait là que pour une tentative d'assassinat sur un vieux paysan de Hollis. Schweik prit le parti de se mettre à la table des conspirateurs, qui, pour la 10e fois, se racontait comment il s'était fait faire. Tous, à l'exception d'un seul, avaient connu cette mésaventure à la taverne, au restaurant de vin ou au café. Le conspirateur, qui formait l'exception, un gros monsieur avec des lunettes sous lesquelles coulaient des larmes, avait été arrêté chez lui parce que 2 jours avant l'attentat, il avait régalé à la taverne de M. Brilska 2 étudiants serbes, élèves de l'école polytechnique, et que le détective Brix l'avait vu ivre à leur compagnie dans la taverne de Montmartre, rue Retesova, où il avait payé toutes les consommations comme il résultait du procès-verbal signé par le malheureux. En réponse à toutes les questions qu'on lui posait au commissariat, il hurlait « Mais je suis commerçant en papier !» À quoi on lui répondait avec la même régularité, c'est pas une excuse. Un autre monsieur, petit professeur d'histoire, arrêté chez le bistrot, était, le jour fatal, en train d'y faire, à l'usage exclusif du patron,
une conférence sur l'attentat à travers les âges. On le troubla au moment où il achevait l'analyse psychologique de l'attentat par cette phrase « L'idée de l'attentat est aussi simple que l'œuvre de Christophe Colomb. » Et aussi simple que Pancrate qui vous attend, lui dit à l'interrogatoire le commissaire de police pour compléter cette conclusion. Le troisième conspirateur était président d'une société de bienfaisance qui s'intitulait l'Ami du Bien et qui avait son siège à Oldolkvitsky. Le jour où la nouvelle de l'attentat y fut connue, une foule se pressait à une fête champêtre rehaussée de concerts qu'avait organisé l'Ami du Bien. Un brigadier de gendarmerie était venu prier les assistants de se disperser à cause du deuil qui venait de frapper la monarchie autrichienne. Et le président, bon garçon, avait tout simplement dit aux gendarmes, en faisant signe à l'orchestre, « Attends une minute, vieux, qu'on ait fini, debout les Slaves !» Et maintenant, il baissait la tête et se lamentait. « Au mois d'août, ma société aura de nouvelles élections, et si d'ici là je ne suis pas rentré à la maison, il est possible que je ne sois plus réélu président. Je l'ai été 10 fois de suite, et si cette fois-ci je rate le coup, oh, je ne survivrai pas à ma honte !» Quant au quatrième individu, type loyal, de moralité parfaite, feu l'archiduc lui avait vraiment joué un mauvais tour. Pendant 2 jours, le conspirateur s'était scrupuleusement gardé de parler de Ferdinand, mais le soir du 3e jour, au café, en jouant aux cartes, il n'avait pas pu s'empêcher de dire au moment où il coupait le roi de pique par un 7 d'atout, « Ah, le roi abattu, comme à Sarajevo !» Le 5e, celui qui avait déclaré être là à cause de l'assassinat de Monseigneur l'archiduc, avait les cheveux et la barbe encore hirsutes d'épouvante, ce qui le faisait ressembler à un griffon d'écurie. Au restaurant où il avait été appréhendé, il n'avait pas soufflé un seul mot, évitant même de lire ce que les journaux rapportaient sur la mort de l'héritier du trône. Il se tenait tout seul à sa table, lorsqu'un monsieur, qui était venu s'asseoir en face de lui, lui avait demandé à brûle-pourpoint « Vous l'avez lu ?»« Non, je n'ai rien lu. » « Mais vous savez la nouvelle ?»« Non. »« Mais enfin, vous savez bien ce que je veux dire. »« Non, moi je ne m'occupe de rien du tout. »« Mais ça devrait vous intéresser tout de même, voyons. »« Bon, je ne m'intéresse à rien de rien. »« Le soir, je fume tranquillement mon cigare, je bois mes demi de bière, je fume mais je ne lis pas. »« Les journaux mentent, à quoi bon me fatiguer la tête ?» « Alors vous ne vous intéressez même pas à cet assassinat de Sarajevo ?»« Aucun assassinat ne m'intéresse, qu'il ait lieu à Prague, à Vienne, à Sarajevo ou à Londres. Pour ça, il y a les autorités, les tribunaux et la police. Mais ça ne me regarde pas. S'il se trouve des types assez imbéciles pour aller se faire tuer n'importe où, c'est bien fait pour eux. Il n'est pas permis d'être crétin à ce point-là. » Ce furent les dernières paroles par lesquelles il se mêla à la conversation. Depuis lors, il ne faisait que répéter toutes les 5 minutes « Mais je suis innocent, je suis innocent !» Ces paroles, la porte de la direction de la police les a entendues. Le panier à salade qui transportera le pauvre bougre au tribunal en retentira aussi, et c'est elle, sur les lèvres, qui franchira le seuil de son cachot. Schweik, après avoir recueilli ses aveux, crut bon d'éclairer ses complices sur leur situation désespérée. Ce qui nous arrive à nous tous est évidemment plutôt grave, ainsi entreprit-il de les consoler. Vous vous trompez tous si vous croyez en sortir. Ah, la police veille, elle est là justement pour nous punir à cause de ce qui sort de nos gueules. Si les temps sont tellement graves qu'on est obligé de tuer les archiducs, personne ne peut s'étonner d'être conduit au poste. Tout ça est nécessaire, il faut du chambard, et il en faut pour faire de la réclame à l'archiduc avant son enterrement. Et tant mieux, si l'on est en nombre. Plus on sera nombreux, plus on rigolera, c'est moi qui vous le dis. Quand je faisais mon service militaire, il arrivait souvent que la moitié de la compagnie passait son temps à la boîte. Et combien d'innocents payaient pour les autres? Oh, je vous parle pas seulement du militaire, je vous parle aussi du civil. Je me rappelle qu'une fois, une bonne femme a été condamnée parce qu'on lui reprochait d'avoir étranglé ses nouveaux-nés, deux jumeaux. Elle jurait qu'elle n'avait pas pu étrangler des jumeaux, puisqu'elle avait seulement accouché d'une petite fille, qu'elle avait réussi du reste à étrangler sans douleur. Serment perdu, elle a été condamnée quand même pour double assassinat. Ou bien, tenez, prenez ce Xigane, tout à fait innocent, qui voulait cambrioler le jour de Noël la boutique d'une épicière à Zavellice. Celui-là a juré aussi qu'il y était entré pour se chauffer un peu, parce qu'il faisait un froid de chien. Pas la peine, condamné aussi. Quand un procureur impérial s'occupe d'une chose, il y a toujours du mauvais. Et il faut qu'il y en ait, quoique tous les gens ne soient pas des fripouilles comme on pourrait le supposer. Ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de distinguer un honnête homme d'une crapule. Surtout à cette heure, les temps sont si durs que les archiducs même y passent. Quand j'étais au régiment, à Budovodjice, on a tué une fois, dans le bois derrière le champ de manœuvre, le chien à notre capitaine. Et quand il a appris la nouvelle, il nous a fait aligner et a fait sortir du rang tous les numéros 10. J'en étais, moi aussi, bien entendu, et nous restions là, au garde-à-vous, sans sourciller. Le capitaine se promène autour de nous, et tout d'un coup, il dit « Chenapan, fripon, assassin, hyène rayée, à cause de ce chien, j'ai envie de vous foutre tous au bloc, de vous hacher en pâte pour faire du macaroni, de vous fusiller et de fabriquer avec vous des portions de carpe marinée. Mais pour vous montrer que je ne vous ménagerai pas, vous aurez chacun 15 jours de tôle. » Mais n'est-ce pas, il s'agissait alors d'un malheureux cabot. Tandis qu'aujourd'hui, c'est l'archiduc qui est descendu. C'est pour ça qu'il faut terroriser pour que le deuil soit à la hauteur de la peine. « Mais je suis innocent, » répéta l'homme aux poils hérissés. « Ben Jésus-Christ aussi était innocent, » répondit Schweig, « et on l'a crucifié quand même. » Depuis que le monde existe, c'est toujours et partout des innocents qu'on sait le plus foutu. Mord alten und weiter dienen, comme on disait au régiment. C'est donc encore ce qu'il y a de mieux et de plus chic. Tchévek s'allongea sur le lit et s'assoupit avec satisfaction. Entre-temps, on introduisit encore deux nouveaux. L'un était marchand ambulant de Bosnie. Il marchait de long en large dans la cellule et n'ouvrait la bouche que pour proférer « Ubanti douchu ». Il s'affligeait à l'idée que son panier de Goldscheiber allait se perdre au commissariat. Le second arrivé fut M. Palivec. Dès qu'il aperçut son ami Schweik, il le réveilla et lui annonça d'une voix tragique « Ben voilà, je viens te rejoindre ». Schweik lui serra cordialement la main et lui dit « Ben, ça me fait vraiment plaisir. Je me doutais bien que monsieur le détective tiendrait sa parole quand il a dit qu'il irait te chercher sans faute, toi aussi. Une exactitude pareille, moi, j'aime ça. » Même monsieur Palivec observa qu'il se fichait parfaitement de cette exactitude, qu'autant valait la merde, et il demanda à voix basse si les autres inculpés n'étaient pas par hasard des voleurs, ce qui pourrait lui faire du tort, vu sa qualité d'honnête commerçant. Son ami lui expliqua que tous, à part un seul, avaient été arrêtés par suite de l'assassinat de l'archiduc. M. Palivec se fâcha et déclara que lui était mis aux choses, non pas à cause d'un idiot d'archiduc, mais bien à cause de Sa Majesté l'Empereur. Et comme les conspirateurs s'intéressèrent à son cas, il leur raconta comment les mouches avaient sali son tableau de François-Joseph Ier. « Elles me l'ont bien arrangé, les garces, » ainsi achevait-il son histoire du tableau. « Et à cause d'elles, me voilà la tête par-dessus le marché. Ah, la tôle, oh, quelle chierie! Oh, je ne pardonnerai jamais ça, ces saletés de mouches !» Jeveil s'était recouché, mais il ne dormit pas longtemps. On vint le chercher pour le conduire à l'interrogatoire. Et c'est ainsi qu'en montant l'escalier conduisant à la troisième section, Jeveil gravissait son calvaire, sans s'apercevoir lui-même qu'il était un martyr désigné. Ayant remarqué un écriteau, défense de cracher par terre dans les couloirs, il pria le gardien qui le conduisait de lui permettre de cracher dans un crachoir, et rayonnant de candeur, il entra au bureau. « Je vous souhaite bonsoir à tous, messieurs, » dit-il. En réponse à sa politesse, quelqu'un lui donna un coup entre les côtes et le mit devant une table, derrière laquelle était assis un monsieur à face glaciale de bureaucrate et aux traits empreints de cruauté bestiale, comme s'il venait d'échapper du livre de Lombroso, l'homme criminel. Il fixa son regard sanguinaire sur Schweig et dit « Allez, dites donc, ne faites pas l'idiot, hein ?»«
C'est pas ma faute, » répondit gravement Schweig. « J'ai été réformé pour idiotie et reconnu par une commission spéciale comme étant idiot. Mais je suis un crétin d'office, moi. »
Le monsieur à la physionomie patibulaire grinça des dents.
« Oh, ce dont vous êtes accusé prouve assez que vous jouissez de la plénitude de vos facultés intellectuelles. »
Et il cita à Schweig toute une série de crimes, commençant par la haute trahison et finissant par la lèse-majesté et les outrages envers les membres de la maison impériale. Au milieu de la série brillait l'apologie de l'assassinat de l'archiduc Ferdinand, accompagné d'autres crimes de même catégorie, tels le trouble apporté à la paix publique, Schweig ayant parlé en lieu public.
« Qu'est-ce que vous en dites ?» questionna triomphalement le monsieur au trait de cruauté bestiale. « Ce que j'en dis, bon, qui en a trop ?» répondit Schweig d'un air innocent. « Et comme on dit, trop est trop. »
« Mais au moins, vous le reconnaissez.
Moi, je reconnais tout, moi. Il faut de la sévérité. Sans elle, on n'irait pas loin. C'est comme quand je faisais mon service militaire. »«
Votre gueule !» s'écria le conseiller de police. « Vous parlerez quand on vous dira de parler, compris ?»«
Bien sûr que je comprends, » dit Schweig. « Je vous déclare avec obéissance que je vous comprends parfaitement et que dans toutes les questions qu'il vous plaira de me poser, je saurai parfaitement où j'en suis.
Quels sont les gens que vous fréquentez habituellement ?
Ma logeuse.
Et dans les milieux politiques, vous ne connaissez personne ?
Si, oh, j'achète tous les soirs l'édition du soir de La Politique Nationale, qu'on appelle La Petite Chienne, et elle me met au courant de tous les événements politiques.
Foutez-moi le camp ! Lui cria l'homme aux yeux de bête cruelle. Tandis qu'on l'entraînait, Schweig émit encore en formule de politesse
« Bonne nuit, dormez bien, honorez, monsieur !»
Rentré dans sa cellule, Schweig annonça à ses co-inculpés qu'un interrogatoire comme il venait d'en subir un n'était que de la rigolade.
« On nous engueule un peu et à la fin, on vous fout à la porte. »
« Autrefois, » continua Schweig, « c'était bien pire. J'ai lu une fois un livre sur la question qu'administrait de torture le fonctionnaire bourreau. Ben, pour prouver leur innocence, les accusés devaient marcher sur du fer rougi au feu et on leur coulait du plomb fondu dans la bouche. Ou bien on les chaussait de brodequins d'Espagne et on leur appliquait le supplice de la roue. Ou encore on leur chauffait et brûlait les flancs avec des torches de pompiers, comme on l'a fait à Jean-Nepomucène. Oh, j'ai lu qu'il criait comme si on l'écorchait, et qu'il n'a cessé que quand on l'achetait dans un sac imperméable, du haut du pont Elisabeth, dans la Vltava. Ce ne sont pas les accusés qui manquaient. Il y avait aussi l'écartèlement et le supplice du pal, c'est-à-dire qu'on vous enfonçait un pieu dans le corps, ce qui faisait l'habitude aux environs du musée national.
Ça fait que, depuis qu'on foutait seulement dans une oubliette où on le faisait mourir de faim, on sentait renaître. Bon, aujourd'hui, reprit Schweik, aller en prison n'est qu'une blague, de la petite bière. Pas d'écartèlement, pas de brodequin d'Espagne. Bien au contraire, nous avons nos lits, notre table, nous sommes bien au large, on nous sert de la soupe, du pain, nous avons notre pot à l'eau et pour les lieux d'aisance, nous sommes tout arrivés. En tout, on voit le progrès. Il n'y a que le bureau du commissaire d'instruction qui est un peu loin, c'est vrai. Il faut traverser 3 corridors et monter un étage, mais par contre, les couloirs sont propres et pleins de monde. Ici, on amène quelqu'un d'un côté, un autre de l'autre, et on se voit de toutes les couleurs. Pas les jeunes, les vieux, et de tous les sexes. À voir ça, on a du plaisir, on se sent pas tout seul. Et tout ça va sans se faire de mille, sans avoir peur qu'on ne leur dise au bourreau « Nous avons décidé que demain vous serez écartelés ou brûlés à votre choix. » J'estime qu'en un moment pareil, le choix serait pour beaucoup d'entre nous plutôt embarrassant et qu'on en resterait baba. Il faut le dire, notre situation à nous autres prisonniers d'aujourd'hui n'est pas la même du tout. On ne veut que notre bien. » Schweik venait d'achever cet éloge du système pénitentiaire moderne. Lorsque le gardien ouvrit la porte et appela « Schweik, habillez-vous, vous allez à l'interrogatoire. »«
Je veux bien, » répondit Schweik. « Ça sera de bon cœur, mais j'ai peur que ça ne soit pas une erreur, parce que moi, j'y suis allé à l'interrogatoire et on m'a foutu à la porte. Et j'ai peur aussi que ces messieurs ici soient jaloux. » De m'y voir passer 2 fois de suite, tandis qu'on les néglige et qu'on les appelle pas du tout.
Ah, c'est causé, hein, et dépêchons-nous, répliqua le gardien à cette manifestation bien digne du gentleman Schweik.
Schweik se retrouva devant le monsieur de tout à l'heure, au type de galérien. Celui-ci, sans nul préambule, l'interpella d'une voix rauque et implacable. « Vous avouez tout ?» L'interrogé leva ses yeux bleus vers l'homme inflexible et dit de sa voix douce « Bon, si vous le désirez, honoré monsieur, j'avouerai tout, parce que moi, ça ne peut pas me faire du tort. Mais si vous dites « Schweik n'avoue rien », je ferai tout pour me tirer d'affaire quand je devrais y laisser ma peau. » Le monsieur, plein de rigueur, prépara une feuille de papier, y écrivit quelques mots et l'attendit à Schweik pour la lui faire signer. Et Schweik apposa sa signature sur le rapport de Bretschneider avec son supplément, de sorte qu'il se terminait ainsi « Je reconnais toutes les accusations portées contre moi comme fondées. Joseph Schweik. » Il se tourna vers le monsieur sévère.
« Dois-je signer encore quelque chose, dit-il, ou bien faut-il que je repasse demain matin ?»«
Demain matin, répliqua le conseiller, vous serez transporté au tribunal criminel. »«
Quelle heure, s'il vous plaît, honoré monsieur, j'ai peur de trop dormir, il est possible que je me réveille en retard. »«
Foutez-moi le camp !»«
Mais ça marche comme sur des roulettes, » déclara Schweik, tout satisfait, au gardien qui le reconduisait vers son nouveau domicile à grilles.
La porte refermée sur lui, il fut pressé de questions auxquelles il répondit sans barguigner.
« Bon, je viens de reconnaître qu'il se peut que j'ai assassiné l'archiduc Ferdinand. »
Effarés, les 6 hommes se blottirent sous leur couverture pouilleuse.
Seul le Bosniaque déclara « Dobrodošli !»
Et se mettant au lit, Schweik déclara encore
« C'est bête qu'on n'ait pas de réveil matin ici. »
Mais le lendemain, on le réveilla sans réveil matin, et à 6 heures précises, le panier à salade le transportait au tribunal criminel.
« Heure du matin, heure du gain, » dit Schweik à ses convoyageurs,
pendant que le panier à salade passait le seuil de la direction de la police. Chapitre 3 Schweig devant les médecins légistes. La cour territoriale du royaume de Bohême, faisant office de tribunal criminel, comporte aujourd'hui, comme du temps de Schweig, une série de petites chambres proprettes où l'on se sent comme chez soi. Aussi firent-elles sur Schweig une impression des plus favorables. Il contemplait avec plaisir les murs fraîchement blanchis à la chaux, les grilles peintes en noir et le gros gardien en chef attaché à la détention préventive, M. de Martigny, paré de revers et de galons violets. La couleur violette, qui était de ligueur dans ces lieux, est la même que l'Église prescrit pour les rites du mercredi des cendres et du vendredi saint. On eût cru au retour des temps glorieux de la domination romaine à Jérusalem. Les prisonniers étaient tirés de leurs cellules et conduits au rez-de-chaussée pour être présentés au Ponce Pilate de l'an 1914. Et les juges, instructeurs, ces Pilates de la nouvelle époque, au lieu de se laver les mains pour se disculper, se faisaient apporter du paprika et de la bière de Pilsen et remettaient continuellement au procureur impérial les actes d'instruction préalables rédigés par eux. C'est là que disparaissait la logique et que l'on voyait le trôneur triompher. Le paragraphe vous étrangler, le paragraphe faire une tête idiote, le paragraphe cracher, le paragraphe se tordre de tout, le paragraphe se faire menaçant et le paragraphe impitoyable. Ces magistrats n'étaient que des jongleurs de la loi, des sacrificateurs aux lettres mortes des codes, des mangeurs d'inculpés, des tigres de la jungle autrichienne qui, d'après les numéros du paragraphe, mesuraient le bon à faire pour s'emparer de leurs victimes. Il y avait cependant une exception à la règle. Quelques messieurs, où ils étaient du reste quelques-uns à la direction de la police, ne prenez pas la loi trop au sérieux, mais on trouve partout du bon grain parmi l'ivraie. C'est devant une exception de ce genre que l'on conduisit Schweig pour lui faire subir un interrogatoire. C'était un homme excellent, de mine débonnaire, ayant eu son heure de célébrité au moment où il avait été chargé d'instruire l'affaire de l'assassin Valls. Il ne manquait jamais de dire chaque fois à ce dernier: « Veuillez vous asseoir, monsieur Valls, il y a justement une chaise de libre. » Tandis qu'on lui amenait Schweig, il invita avec sa bonhomie coutumière à prendre place, lui aussi, et dit « Alors, c'est vous, monsieur Schweig ?»« Je le crois bien, » répondit Schweig. « Il ne doit pas y avoir d'erreur, parce que mon père était bien monsieur Schweig et ma mère madame Schweig. » Je ne peux pourtant pas leur faire l'affront de lui renier leur nom. » Un doux sourire effleura le visage du conseiller à la cour chargé de l'instruction. « Mais vous en avez de belles, vous. Vous devez avoir la conscience bien chargée. »« En effet, honoré monsieur, elle est bien chargée, ma conscience, » dit Schweig en souriant encore plus aimablement que le juge. « Sans offense, il est bien possible qu'elle pèse encore plus lourd que la vôtre. »« Ah, je m'en aperçois bien qu'à jeter un coup d'œil sur le rapport que vous avez signé, » répliqua le juge d'un ton non moins aimable. « Voyons, n'y a-t-il aucune pression de la part de ces messieurs de la police ?»« Mais non, monsieur. Moi-même, j'aurais demandé si je devais signer le rapport, et quand ils m'ont dit oui, bon, j'ai obéi à leurs conseils. » Vous ne voudriez pas que je me dispute avec eux à cause de ma malheureuse signature, n'est-ce pas? Ça ne m'avancerait à rien du tout. Il faut de l'ordre en tout. Et vous sentez-vous tout à fait bien portant, monsieur Schweig? Bon, pas tout à fait ça, non, honoré monsieur le conseiller. Pour le moment, j'ai des rhumatismes et je me frictionne avec du baume de Poneldorf. Le vieux monsieur eut à nouveau un sourire aimable. Si on vous faisait examiner par les médecins légistes, dit-il, qu'est-ce que vous en penseriez?
Bon, je crois pas que mon état soit si grave que ça. Dans tous les cas, je voudrais pas faire perdre à ces messieurs leur temps si précieux. Et si dirais-je, j'ai déjà passé par un examen médical au commissariat central. Ils ont voulu savoir si j'avais pas la chaude pisse. Je vais vous dire, monsieur Schweig, que nous allons tout de même faire appel au médecin légiste. Nous allons réunir une bonne petite commission et en attendant, vous vous reposerez à la détention préventive. Maintenant, encore une question. Il résulte du rapport de la police que vous avez affirmé que la guerre était imminente. Oh, il se fera pas attendre, monsieur le commissaire, c'est moi qui vous le répète. N'avez-vous pas de temps en temps des crises de nerfs? Enfin, je veux dire, n'y a-t-il pas des moments où vous vous sentez quelque chose comme si on en voulait à votre vie? Oh, une seule fois, j'ai eu un sentiment comme ça, interrompit Schweig. C'est quand j'ai failli être écrasé par une auto sur la place Charles. Oh, il y a pas mal d'années de ça. L'interrogatoire prit fin. Schweig tendit la main au juge et retourna dans sa petite chambre paisible, où il annonça à ses camarades de cellule « Ben, il paraît qu'on va me faire examiner par les médecins légistes à cause de cet assassinat de Monseigneur l'archiduc Ferdinand. »« Moi, ils m'ont déjà examiné, les médecins légistes, » dit un jeune homme, « et c'est quand je suis passé aux assises pour les tapis. Ils m'ont reconnu comme faible d'esprit. Maintenant, j'ai un habit de confiance sur le dos. » Et ils ne peuvent rien me faire. Mon avocat m'a dit justement hier que je pouvais être tranquille et qu'une fois déclaré faible d'esprit, j'en avais pour toute ma vie. Oh là là, j'y crois rien du tout à vos médecins légistes, remarqua un autre homme qui avait l'air intelligent. Une fois, j'ai essayé de faire un petit faux, une traite de rien du tout. Et pour parer à toute éventualité d'arrestation, j'ai suivi le cours du professeur Everhoff sur les maladies mentales. Eh bien, quand on m'a arrêté, je n'ai pas manqué de profiter des leçons de M. Everhoff, et j'ai simulé la paralysie avec tous les symptômes qu'il prévoyait. Devant la commission, j'ai mordu un médecin légiste à la jambe. J'ai bu tout le contenu de l'encrier, et, sauf votre respect, messieurs, j'ai ôté ma culotte et j'ai chié dans un coin. Tout allait bien, mais parce que j'avais amoché le mollet de ce type-là, ils ont reconnu que je jouissais de toutes mes facultés et j'étais perdu. Oh, moi, ils me font pas peur, ces messieurs, déclara Schweig. Quand je faisais mon service militaire, il a fallu que je me présente devant le vétérinaire et tout a bien marché. Les médecins légistes, proclama un petit bout d'homme, c'est des charognes. Il y a quelque temps, on a trouvé en creusant la prairie qui est ma propriété, un squelette, et les médecins légistes ont déclaré que l'individu à qui ce squelette appartenait a été tué il y a 40 ans à l'aide d'un objet contondant. Moi, messieurs, j'ai 38 ans, et je suis accusé d'assassinat de ce fichu squelette, quoique j'ai mon extrait de naissance et mon certificat d'origine en ordre. Je crois, reprit Schweig, que dans tout ça, faut être juste. Tout le monde peut se tromper, et plus on réfléchit aux choses, plus on se trompe. Les médecins légistes, c'est des gens comme nous autres, et ils sont fautifs tout comme nous autres. Une fois, il était minuit, je rentrais chez moi. J'avais poussé ma promenade jusque chez le bistrot Banzai, quand tout d'un coup, à la hauteur du pont qui traverse le Botique à Nusle, arriva là un monsieur qui, d'un coup de matraque, m'envoie rouler par terre. Il tire ensuite sa lampe de poche, éclaire mon visage et dit « Oh, mais je me suis encore trompé, c'est pas lui. » Et il était tellement en rogne de son erreur qu'il m'a fichu encore un autre coup dans le dos. Mais c'est le naturel des hommes. Tant qu'on vit, on se trompe. Il y avait une fois un monsieur qui avait trouvé la nuit un chien enragé, crevant de froid. Il l'a pris dans ses bras et, arrivé chez lui, il l'a mis dans le lit où dormait sa femme, pour réchauffer un peu la pauvre bête. Oui, mais dès que le chien a été réchauffé et remis sur ses pattes. Il a commencé à mordre jusqu'à plus soif dans tout ce qu'il a trouvé. Toute la famille du monsieur y a passé, jusqu'au petit qui dormait dans son berceau, et dans cette sale bête enragée n'a rien laissé. Oh, je peux encore vous raconter une histoire qui est arrivée à un tourneur en bronze. Ce type-là, croyant se trouver devant la porte de la maison qu'il habitait, a ouvert avec sa clé la porte de la chapelle de Podol. Il a ôté ses chaussures et prenant l'autel pour son lit, il s'est couché dessus. Il s'est couvert avec un gonfalon et des nappes d'autel et, comme oreiller, il s'est servi de l'Évangile et encore d'autres livres saints parce qu'il voulait avoir la tête haute. Le matin, le sacristain l'a trouvé et l'a réveillé. Le tourneur n'y comprenait rien. Et quand il s'est reconnu, il a dit au sacristain qu'il avait dû se tromper, que c'était certainement une erreur. Vous entendez la réponse, hein, une erreur, que le sacristain lui a dit. Et nous autres, il va falloir qu'on consacre la chapelle une nouvelle fois. Ben, mon cochon, bien sûr qu'avec les médecins légistes, ce tourneur-là n'y a pas coupé. Ils lui ont reprouvé qu'il avait agi avec discernement et qu'il n'était pas en état d'ivresse complète comme il le prétendait, à preuve qu'il avait facilement trouvé la serrure. Ce pauvre diable tourneur est mort dans son cachot à Pancrace. Bon, non, si vous voulez encore un autre exemple. À Kladno, il y avait dans le temps un brigadier de gendarmerie qui élevait des chiens policiers et les exerçait en poursuivant de pauvres cheminots, de sorte qu'à la fin des fins, il n'y en avait plus un seul dans le pays. Mais comme le brigadier en avait besoin pour ses expériences, il a ordonné une fois de lui amener à tout prix un individu aux allures louches. Là-dessus, on lui amène un homme assez bien vêtu qu'on avait trouvé, se reposant sur un tronc d'arbre dans le bois de Lagny. Le brigadier lui a fait couper un morceau de son paletot, l'a fait flairer par ses chiens policiers de gendarmerie, et enfin on l'a conduit dans une tuilerie où on a lâché les chiens à ses trousses. Comme de juste, l'homme l'a été rattrapé, et on l'a forcé à monter sur une échelle, à sauter un mur, à se jeter dans un étang, avec les chiens toujours sur ses talons. Finalement, on a découvert que c'était un député radical tchèque qui était allé se mettre au vert dans le bois de Lagny parce qu'il s'embêtait trop au Parlement. Et voilà! C'est pourquoi je dis toujours que les hommes sont tous fautifs, que tout le monde peut se tromper, qu'on soit savant ou ignare, un os ou une andouille. Les ministres eux-mêmes se trompent. La commission de médecins légistes qui devait statuer sur la capacité mentale de Schweik et constater s'il était oui ou non responsable des crimes qui faisaient l'objet de l'accusation, comprenait trois messieurs très sérieux qui professaient en toute chose des opinions diamétralement opposées. À eux trois, ils représentaient trois écoles scientifiques et trois courants de la science psychiatrique. Si, pour le cas Schweik, ils purent tomber complètement d'accord, ce fut grâce à l'impression renversante que Schweik avait produite sur eux trois à son entrée dans la salle. Apercevant un portrait de Sa Majesté autrichienne qui ornait le mur, Schweik n'hésita pas à crier de toutes ses forces « Messieurs, vive l'empereur François-Joseph Ier !» Pour eux, la phrase en disait long. Cette manifestation spontanée leur épargnait toute une série de questions. Il n'en restait plus que quelques-unes indispensables, celles-là que recommandaient les systèmes du docteur Callerson, du docteur Riverock et de l'anglais Welking. Le radium est-il plus lourd que le plomb? À cette première question, Schweik répondit avec son sourire habituel. « Je sais pas, je l'ai jamais pesé, dit-il. Croyez-vous à la fin du monde ? Ben, il faudrait d'abord que je la voie, cette fin du monde, répondit Schweik négligemment. mais ça ne sera pas encore pour demain. Il est probable que je n'y vivrai pas jusque-là. Pourriez-vous calculer le diamètre de notre Terre ?
Bon, j'en doute, dit Schweik. Mais permettez-moi de vous poser une question, s'il vous plaît. Voici. Il y a une maison à 3 étages et à chaque étage de cette maison, il y a environ 8 fenêtres. Au toit, il y a aussi 2 lucarnes et 2 cheminées. En plus, à chaque étage, il y a 2 locataires. Dites-moi maintenant, s'il vous plaît, à quel âge est morte la grand-mère de la concierge de cette maison ?
Les médecins légistes se regardèrent en se faisant des signes d'intelligence. Cependant, l'un d'eux posa encore une dernière question à Schweik. Connaissez-vous la profondeur maximum de l'océan Pacifique ?
Malheureusement, non, répondit Schweik, mais elle doit être certainement bien supérieure à celle de la Vltava près de la colline de Visorad.
Le président de la commission fit un « cela suffit », mais l'un de ses membres demanda encore à Schweik « Combien font 12,897 multiplié par 13,863 ?»«
729 » répondit Schweik sans sourciller.
« Bon, je crois que cette fois-ci, cela nous suffit, » déclara le président de la commission. « Ramenez-moi cet accusé d'où il est venu. »
« Je vous remercie, messieurs, » dit Schweik avec déférence. « Moi aussi, cela me suffit tout à fait. »
Schweik sortit. Cette trinité d'Esculape décida que Schweik était un idiot notoire, un idiot à qui on pouvait appliquer toutes les lois naturelles inventées par les maîtres de la psychiatrie. Dans le rapport remis au juge d'instruction, l'on pouvait lire notamment « Les sous-signés, médecins légistes, considérant l'abrutissement général et le crétinisme congénital du sieur Joseph Schweik, qui s'est présenté ce jour-là devant eux aux fins d'un examen médical, attendu qu'il a proféré des cris comme « Vive l'empereur François-Joseph Ier », ce qui suffit complètement à établir que le dit individu est un idiot incontestable, déclarant qu'il faut toute urgence premièrement, abandonner l'instruction préalable, et deuxièmement, renvoyer Joseph Schweik devant une commission d'aliénistes en vue de constater si, oui ou non, sa vie est de nature à porter atteinte à la sûreté générale et à l'ordre public. Tandis qu'on rédigeait ce rapport, Schweik déclara à ses co-prisonniers «
Oh, ils se foutent pas mal de Ferdinand, par exemple. Ils n'ont pas soufflé mot. » Mais ils m'ont bavardé avec moi d'un tas de choses encore plus idiotes. À la fin, on s'est dit que ça suffisait, et on s'est quitté, content de ce qu'on s'était raconté, nous quatre.
Je ne crois rien ni personne, proféra le petit bouddhomme accusé de l'assassinat du squelette trouvé dans sa prairie. Tout ça, c'est de la fripouillerie.
Eh ben, cette fripouillerie, il faut qu'elle existe, dit Schweik en se mettant au lit. Si tous les gens voulaient du bien les uns aux autres, le monde ne ferait que se manger le nez.